Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Tout un quartier de New Delhi était en feu cette nuit. Des violences ont éclaté entre nationalistes hindous et musulmans. Violence des forces de l'ordre également. Alors que Donald Trump est en visite en Inde, nous irons à New Delhi dans un instant.
Nous nous interrogerons ensuite sur le taux de mortalité du coronavirus. L'épidémie s'étend, elle touche une trentaine de pays au total et inquiète les marchés financiers.
Asia Bibi demande l'asile en France. La Pakistanaise, accusée de blasphème dans son pays, est en visite à Paris. Vous l'entendrez dans le journal.
Au salon de l'agriculture, Marine Le Pen est attendue ce matin. Elle veut y convaincre de potentiels électeurs. Analyse dans un instant.
Et puis nous vous expliquerons le fonctionnement du grenier à graines de l'Arctique. Plus de 66 000 échantillons de semences doivent y arriver aujourd'hui. Les caméras de télévision étaient braquées à 800 km de là. Alors que Donald Trump entamait en grande pompe hier sa visite en Inde, la capitale New Delhi s'est embrasée dans un silence médiatique. Des violences intercommunautaires ont éclaté et continuent d'ailleurs ce matin encore. Il s'agit toujours de la contestation contre la loi sur la citoyenneté qui écarte de facto les musulmans. Bonjour Sébastien Farcy.
Bonjour, bonjour à tous.
Au moins 7 personnes ont été tuées, dont un policier hier. Les images sur les réseaux sociaux sont violentes.
Oui, des commerces, des pompes à essence et des véhicules incendiés, des dizaines de personnes battues au sol et gravement blessées. Le nord-est de New Delhi était en feu hier soir et les affrontements continuent ce matin à coups de jets de pierre. Ces violences ont lieu dans un grand quartier qui compte une importante population musulmane. La tension montait en fait depuis 2 jours déjà. D'un côté, des groupes opposés à la nouvelle loi sur la citoyenneté, principalement des musulmans, qui cherchaient à entamer un nouveau sit-in pour protester contre cette législation qui introduit des critères religieux dans l'accès à la nationalité indienne et en exclut les musulmans. Et de l'autre côté, eh bien des groupes hindous encouragés par un dirigeant du parti nationaliste hindou au pouvoir, le BJP. Ce qui est troublant, c'est que selon plusieurs sources, la police semble avoir pris parti pour les assaillants hindous, ne faisait rien, voire les encourager quand ces derniers incendiaient des commerces musulmans. La police de Delhi est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur dirigé par les nationalistes hindous. Les policiers ont pour l'instant arrêté un homme musulman qui a dégainé un pistolet. Des centaines de paramilitaires ont été envoyés maintenant en renfort pour essayer de contrôler la situation.
Merci Sébastien Farcy, correspondant de RFI à New Delhi pour France Culture. Votre reportage par ailleurs sur les racines du nationalisme hindou est à retrouver sur notre site franceculture.fr. L'épidémie de Covid-19 s'accélère à travers le globe. Les bilans augmentent, de la Corée du Sud à l'Iran en passant par l'Italie. Ces trois pays sont les plus touchés après la Chine, avec 14 morts en Iran, 7 en Corée du Sud ainsi qu'en Italie. Après un séjour là-bas, les voyageurs sont d'ailleurs invités à réduire les sorties en France et à mettre des masques le cas échéant. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé évoque maintenant ouvertement le risque de pandémie. Mais quelle est exactement la dangerosité de ce nouveau coronavirus par rapport par exemple au SRAS en 2002? Stanislas Vazak a posé la question à Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Voici sa réponse.
Ce coronavirus, ce Covid-19, il est probablement moins létal, c'est-à-dire qu'il entraîne moins de mortalité que le SRAS dont vous me parlez. Le SRAS entraînait 10% de mortalité, c'est-à-dire que si vous preniez 100 personnes infectées, 10 mourraient à cause de ce coronavirus, c'était aussi un coronavirus. Mais avec le nouveau coronavirus, ce coronavirus qui s'appelle d'ailleurs SARS-2, la mortalité est certainement très inférieure, probablement autour de 1%. Ça veut dire que 99% des cas vont survivre. Et même mieux que cela, 80% des personnes infectées n'ont pratiquement pas ou peu de symptômes. C'était du jamais vu avec le SRAS. Le SRAS était une maladie très bruyante qui entraînait des pneumonies et une fièvre très élevée chez pratiquement tous les cas. Mais le revers de la médaille, c'est que vous allez dire, mais alors pourquoi on dit qu'il est plus dangereux? Le revers de la médaille, c'est que ces virus moins dangereux, mais qui quand même ont une mortalité de l'ordre de 1%, sont redoutables parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire ces mesures un peu individuelles de dépistage aux frontières, par exemple. Ça ne sert à rien de prendre la température des gens dans les voitures ou aux frontières quand ils arrivent dans votre pays, parce que la plupart, au moins 80%, n'auront peut-être aucun symptôme et vous ne pourrez pas les détecter. Et pourtant, ils seront contagieux.
Et j'ajoute que par comparaison, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est 3 fois plus bas, à 0,3%. Aujourd'hui, par ailleurs, une réunion des ministres de la Santé en Europe doit avoir lieu en Italie à propos de ce coronavirus. Le Français Olivier Véran va s'y rendre. La question est toujours de savoir comment endiguer l'épidémie. En Chine, où le virus a tué 2600 personnes, certains experts évoquent les animaux sauvages vendus sur les marchés comme possibles vecteurs de cette maladie. Les pangolins sont notamment cités. Ce sont des mammifères à écailles menacés d'extinction, Dominique André.
Il faut arrêter de manger du pangolin, clament depuis des années les défenseurs de ce petit mammifère peu connu dans le monde mais très prisé en Asie pour sa chair délicate et hors de prix. La médecine traditionnelle asiatique l'utilise beaucoup pour ses écailles. Espèce menacée comme les éléphants, le pangolin est au cœur d'un trafic illégal sur lequel les autorités chinoises ont longtemps fermé les yeux. Cela fait des années que cette ONG chinoise dirigée par Su Feiya se bat pour sauver le pangolin.
Presque 124 tonnes d'écailles de pangolins sont saisies chaque année en Chine. Les pangolins proviennent surtout du continent africain parce qu'il n'y a quasiment plus de pangolins en Chine depuis les années 90. Ça fait un an que notre organisation considère que le pangolin est en voie d'extinction. Le trafic illégal est énorme. Nous estimons qu'il est du niveau du trafic d'armes et de drogue.
La machine s'emballe. 18 suspects ont été arrêtés, a annoncé le procureur de Wenzhou sur la côte est de la Chine. Il faut abolir la mauvaise habitude de trop consommer les animaux sauvages. La communauté scientifique mondiale n'a pas confirmé la culpabilité du pangolin dans l'épidémie. Mais en attendant, le gouvernement soigne aussi son image de marque en protégeant la faune sauvage à quelques mois de la COP15 sur la biodiversité, dont la Chine sera le pays d'accueil.
C'était Dominique André. Son avocate annonce qu'il va faire appel. Aux États-Unis, Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Son comportement, toutefois, n'est pas reconnu par la justice comme celui d'un prédateur, ce qui était une circonstance aggravante. L'ancien mania du cinéma a été placé en détention en attendant l'annonce de sa peine au mois de mars prochain. Il risque jusqu'à 29 ans de prison. Ce n'est que le début, clamaient hier ces accusatrices et des militantes des droits des femmes. Partons maintenant en Mauritanie, auprès du ministre des Affaires étrangères français. Jean-Yves Le Drian est à Nouakchott pour une réunion de l'Alliance du G5. Il s'agira en fait de trouver des fonds pour accélérer les projets contre les dérives terroristes, Bertrand Galichet.
Même si la force Barkhane intensifie ses opérations et annonce avoir neutralisé des dizaines de djihadistes ces dernières semaines, la France réclame parallèlement une accélération du développement économique du Sahel. Il y a urgence, c'est le message que Jean-Yves Le Drian vient porter ici à Nouakchott, où il est arrivé hier soir.
Les mobilisations financières sont au rendez-vous dans les annonces, elles ne sont pas au rendez-vous dans les actes. Et le but majeur de cette rencontre, c'est de faire en sorte que concrètement, les projets d'amélioration de la vie quotidienne se mettent en œuvre pour éviter toutes les attractivités que peuvent entraîner sur les jeunes les groupes terroristes qui les manipulent, qui parfois les payent pour mener des actions de déstabilisation des États.
Les financements engagés sont ambitieux. 12 milliards d'euros provenant de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la France et d'une dizaine d'autres partenaires regroupés dans l'Alliance Sahel qui se réunit ici aujourd'hui, simultanément avec le G5 chargé de lutter contre le terrorisme. Objectif, coordonner les actions de développement dans les zones de crise et stabiliser les populations. Au Burkina, on compte 560 000 déplacés, 200 000 au Mali et presque autant au Niger.
Bertrand Galichet, envoyé spécial en Mauritanie pour France Culture. Une enquête est ouverte en Allemagne pour tentative de meurtre. Hier, une voiture a foncé sur des passants lors d'un défilé de carnaval dans le centre du pays, à Volkmarsen. Au moins 30 personnes sont blessées selon la police locale. Le conducteur a été arrêté. La piste terroriste n'est pour le moment pas privilégiée.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal. Asia Bibi est en visite à Paris.
Oui, la chrétienne pakistanaise a été emprisonnée ces 8 dernières années dans son pays, simplement pour avoir bu un verre d'eau. Elle était accusée de blasphème par les intégristes religieux. Finalement, elle a été innocentée. Elle vit aujourd'hui au Canada. Et elle raconte son histoire dans un livre enfin libre aux éditions du Rocher. Livre qu'elle a écrit avec Anne-Isabelle Tollet, une journaliste française, Nathanaël Charbonnier.
Elles ont combattu contre la mort ensemble, elles sont maintenant unies pour la vie. D'ailleurs, dès qu'Asia Bibi prend la parole, c'est pour pleurer d'amour pour son amie journaliste qui l'a toujours soutenue.
Et regardez la sœur que j'ai, le courage qu'elle a. C'est ma sœur.
Une sœur de vie pour une histoire folle. Nous sommes le 14 juin 2009. Asia Bibi travaille dans les champs. Elle a soif et s'approche d'un puits pour se désaltérer.
Tout ça pour un verre d'eau.
Mais voilà, pour les intégristes religieux musulmans, boire directement dans un puits quand on est chrétienne, cela ne se fait pas. Vous ajoutez à cela un peu de jalousie. Et c'est ainsi qu'Asia Bibi va se retrouver accusée d'avoir insulté le prophète.
Alors, j'ai été accusée que j'avais blasphémé contre la personne du prophète et que j'étais en train de détourner les jeunes filles du droit chemin.
La suite, c'est 10 ans de prison, 10 ans de procédure, de condamnation à mort et une attitude toujours la même, celle de la foi et du pardon chrétien.
Moi, je leur ai tous pardonné.
Un pardon qui n'est pas réciproque puisqu'Asia Bibi reste toutefois en danger sous la menace de mort des islamistes.
Oui, j'ai besoin d'un dispositif de sécurité parce que je reçoit encore des menaces.
Et profitant de son passage en France, la Pakistanaise a décidé de demander l'asile politique à notre pays.
Et Asia Bibi sera d'ailleurs reçue ce vendredi par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Le procès des époux Fillon est suspendu jusqu'à demain. François et Pénélope Fillon sont poursuivis pour détournement de fonds et complicité. Les avocats ont demandé hier un renvoi de la première journée d'audience, soutien à la grève de la profession contre la réforme des retraites. Une réforme qui avance tout doucement à l'Assemblée nationale. Le premier article a été adopté hier par les députés après 8 jours de débat et l'étude de 2000 amendements. L'ombre du 49-3 plane toujours sur cette réforme alors qu'il reste 64 articles à examiner. Le défilé de politique se poursuit au Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Après Emmanuel Macron, après Édouard Philippe, Marine Le Pen y sera aujourd'hui. La chef de file du Rassemblement national avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2022 le mois dernier. Elle semble déjà en campagne et elle va s'adresser à un électorat de plus en plus tenté par le vote protestataire, Stéphane Robert.
Les agriculteurs sont longtemps restés réfractaires au discours du Front National. Mais depuis un peu plus de 15 ans, le FN grignote des parts de marché dans cet électorat. Et à la dernière présidentielle, 30% d'entre eux, selon une enquête de l'IFOP, auraient glissé dans l'urne un bulletin Marine Le Pen. Avant l'an 2000, le vote du monde agricole en faveur du FN ne dépassait pas les 10%. La présidentielle de 2002 marque une rupture. 20% des agriculteurs votent Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine obtient le même score en 2012. On enregistre un reflux en 2007. Nicolas Sarkozy ramène en grande partie cet électorat dans le giron de la droite républicaine. Mais le phénomène est loin de concerner les seuls agriculteurs. Le FN recule partout de façon globale. 2007 constitue donc une exception. Pendant plusieurs dizaines d'années, la forte influence de l'Église dans les campagnes et l'acceptation d'un modèle de cogestion de l'agriculture française par la FNSEA et par les gaullistes ont conduit le monde agricole à voter en grande majorité pour la droite républicaine. La politique européenne en leur faveur à travers la PAC, la politique agricole commune, a aussi durablement ancré le vote des agriculteurs à droite. Mais aujourd'hui, le nombre d'exploitations décline, on en compte moins de 500 000. La profession se paupérise et le vote protestataire progresse dans cet électorat. La réduction des budgets européens prévus dans les années à venir et la montée des préoccupations environnementalistes dans l'opinion pourraient désespérer et marginaliser un peu plus encore cette population, ce qui pour Marine Le Pen offre de potentielles marges de progression.
Marine Le Pen qui se dit prête à quitter la présidence du Rassemblement National en vue de la présidentielle. Vous comprendrez pourquoi avec le billet politique de Frédéric Seyss après ce journal. D'ici là, visitons ce que certains appellent l'Arche de Noé végétale en plein cœur de l'Arctique. Une gigantesque base de stockage de graines située en Norvège dans l'archipel du Spitsberg, tout au nord. De nouvelles graines d'ailleurs vont y arriver aujourd'hui. Il s'agit de préserver la biodiversité, Claude Guibal.
Il faut imaginer un gigantesque coffre-fort enfoui sous la glace, des rayonnages remplis de boîtes venues de tous les continents, de tous les pays, de la Terre de Feu au Liban en passant par le Chili ou la Corée du Nord. Depuis son inauguration en 2008, près de 5 millions de graines y ont été déposées à 120 mètres de profondeur dans les glaces du Svalbard, l'autre nom du Spitsberg. Il s'agit de préserver là le patrimoine alimentaire de la planète, expédié par les banques de graines de chaque pays afin de pouvoir reconstituer la diversité agricole en cas de catastrophe par exemple. En 2012, au début de la guerre en Syrie, la banque de graines d'Alep avait ainsi expédié des échantillons de son blé pour le préserver. Lorsqu'elle a été endommagée par les conséquences de la guerre, les agronomes syriens ont pu, quelques années plus tard, retirer des graines du Svalbard pour les replanter. Mais l'archipel, qui abrite cette arche de Noé végétale, constate lui-même les effets du dérèglement climatique, notamment la fonte des glaces, accélérée par presque 10 années consécutives de températures supérieures à la normale.
Claude Guibal pour France Culture. La pluie gagne du terrain ce mardi en France métropolitaine, partant du nord-ouest du pays pour rejoindre l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. Le soleil va briller sur un quart sud-est, malgré quelques nuages par endroit, avant l'arrivée de giboulées cet après-midi. Ce matin, il fait 7 degrés à Lyon, 8 degrés à Besançon et Lille, 10 à Rennes et Paris, 11 degrés à Bordeaux et comptez 14 degrés ce matin à Toulon.